Alors, j'ai le plaisir de vous présenter François de Smet. Peut-être est-il intéressant de rappeler, ouvrant par là d'ailleurs une discussion qui n'est pas celle d'aujourd'hui, que l'entremetteuse de notre rencontre fut Facebook, ce qui prouve à ceux qui se demanderaient où est la vraie vie de répondre partout, tout simplement. Alors, j'ai d'abord connu François par l'intermédiaire d'un livre qui n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, mais que je vous conseille, et qui s'appelle « Reductio ad Hitlerum », livre qui réfléchissait sur le point Goodwin, et qui peut s'énoncer comme ça. Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Hitler se rapproche de 1. Ou comme le disait Léo Strauss en 1953, l'utilisation de l'argument rhétorique consistant à disqualifier une idée sous prétexte qu'elle aurait pu être partagée par Hitler. Bon, je vous le conseille vraiment, ce livre, mais ce n'est pas pour cela qu'il est ici aujourd'hui avec nous. Alors François de Smet est d'abord docteur en philosophie, collaborateur scientifique au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité de l'Université libre de Bruxelles, maître assistant en philosophie à la Haute École de Namur, Liège, Luxembourg, mais aussi, et cela nous concerne directement, directeur de MIRIA, le Centre fédéral de la migration. Et parce que tout cela n'épuise pas son conatus, il est aussi chroniqueur à la radio et dans la presse. Alors, François de Smet écrit, il écrit beaucoup même, il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont un qui a retenu notre attention pour ce qui nous concerne ici, intitulé « Une nation nommée Narcisse », dans lequel il défend une thèse assez radicale que je décrirai comme ceci. La nation est d'abord un fantasme, j'aurais eu moi-même plutôt à dire un délire, mais je vais peut-être trop loin. En tout cas, en tout état de cause, pour François de Smet, la nation est, et là je le cite, un narcissisme collectif par lequel l'individu se sent échappé à sa destinée individuelle, pesante, et se laisse volontiers engloutir par le confort de la meute. Alors, vous pourriez me dire, bon, d'accord, le confort de la meute, pourquoi pas? Et je crois que François vous répondrait, la nation vue sous cet angle se révèle être un des périls pour la démocratie, car sa nature cachée de réduire le monde à une expression homogène et à une continuité excluant le mouvement et la contingence. La nature de la nation est de correspondre à la velléité de l'homme, terrifié devant le chaos du monde, de vouloir se fondre dans la totalité rassurante au risque de ne plus évoluer. Je m'arrête là et je te passe la parole.
Merci Philippe. C'est étonnant parce qu'en t'écoutant me citer, j'ai l'impression d'être beaucoup plus radical que je ne me sens. Merci d'abord à toi, merci au groupe Vaudois. Et à tous les organisateurs, merci également à David André, donc, puisque vous êtes les deux à qui j'ai eu principalement affaire. Et donc, merci de m'avoir invité et acheminé ici, alors que c'est vrai que j'ai fait ce petit ouvrage, il s'en va déjà, sur la question de la nation. Mais c'était au départ une étude sur la démocratie qu'on m'avait demandé de faire pour une petite intervention. Et je me suis donc égaré sur le concept de nation, dont je ne suis pas un spécialiste, je dois le dire, parce que je suis arrivé, je suis là depuis hier soir. J'ai donc assisté à peu près tout ce qui s'est entendu ici, et je me sens bien modeste et bien amateur par rapport aux exposés que nous avons eus. Et je voudrais commencer par un point. J'apprends beaucoup, je suis assez bien accueilli ici, c'est à la fois enrichissant intellectuellement et humainement. Je vais bientôt devenir incollable sur la mythologie helvétique et ses différentes composantes. Et je n'avais pas prévu de le faire, mais ça fait résonance à beaucoup de choses par rapport à mon pays, la Belgique. Et il y a tout de même y a des éléments de comparaison et de différence qui me semblent intéressants de souligner. De comparaison parce que voilà deux pays d'une taille comparable, avec des populations de taille comparable, qui ont une sorte de cristallisation nationale, et ça a été rappelé ce matin, dans des périodes comparables. 1830 pour nous et 1815, qui est une date clé, si j'ai bien compris, dans l'histoire suisse. Et si j'ai bien compris l'un des intervenants ce matin, il y a une conscience du côté construit, du côté artificiel qu'ont en fait toutes les nations, mais que les Suisses ou les Belges peuvent particulièrement ressentir, puisqu'elles sont ce sont deux pays qui sont délibérément constitués d'identités très différentes, mais que les Suisses, d'après ce qui a été dit ce matin, s'en sortiraient finalement un peu mieux que nous. Puisque c'est vrai que nous faisons un étalage régulier de nos conflits communautaires. Et c'est sans doute vrai, mais je voudrais nuancer les choses. Il n'y a sans doute pas de nation belge au sens où nous pouvons comprendre les nations des autres grands pays qui nous entourent, par exemple la France, l'Allemagne, bien sûr, et beaucoup d'autres. Jules Destrée, qui est un député socialiste du début du XXe, avait écrit une lettre très connue chez nous qui s'appelle « Sire, il n'y a pas de Belge ». Et il explique, parce qu'il devait faire une mission d'information, il explique au roi, je suis désolé, j'ai vu des Wallons, j'ai vu des Flamands, j'ai vu des Bruxellois, je n'ai pas vu de Belge. C'est un peu l'équivalent à la lettre du fonctionnaire britannique au Foreign Office qu'on a vu tout à l'heure au sujet de la Suisse. Je crois qu'il y a deux nations chez nous. Mais pas ce que vous pourriez croire, c'est pas une nation flamande et une nation wallonne. C'est plus tordu que ça. Il y a une nation flamande style 19e, c'est-à-dire avec une destinée, une adéquation entre une langue, une culture, un territoire, des mythes fondateurs, des personnages, des héros, vraiment, mais de manière transparente, avec la fierté. Certains diront l'orgueil, un sentiment d'humiliation. C'est pour ça que j'invoque souvent Narcisse, parce que dans toute velléité nationale, quelle qu'elle soit, qui a à se prouver quelque chose, il y a souvent une blessure qui est impossible, comme les blessures narcissiques, à vraiment rétablir et qui est donc condamnée à être dans le passé et dans l'avenir et jamais dans le présent. C'est ça le problème de la nation, quelle qu'elle soit pour moi. Donc il y a cette nation flamande réelle. Et puis, vous avez une nation non pas francophone, non pas wallonne, mais belge, qui est un peu composé comme le négatif d'une photographie, et qui se constitue une entité réelle, mais plus davantage constituée par des valeurs, une forme d'humour, un surréalisme, une sorte étrange d'identité de ce qui n'est pas, une identité de la contingence. Si je voulais mettre ces deux nations et les traduire par une iconographie, puisque toute nation, ça a été rappelé hier, se traduit par une littérature, une production artistique, je mettrais un bon Bruegel, l'ancien, du côté flamand, et je mettrais un tableau de Magritte du côté belge. C'est tout à fait ça. Et dans ce pays, avec une partie du pays qui désire prendre de plus en plus d'autonomie, nous sommes aujourd'hui dans une situation singulière. On a eu, vous le savez, une longue crise de 541 jours sans gouvernement en 2010. Pour l'anecdote d'ailleurs, moi je trouve ça drôle, les indicateurs économiques du pays ont été très très bons pendant cette période-là. Le taux de remboursement de la dette, c'est très étrange. Il faudrait voir ce qui se passe avec l'Espagne aujourd'hui, voir si c'est comparable, mais apparemment quand on ne gouverne pas et que simplement l'administration fait le boulot, il y a beaucoup de pays qui se portent mieux. Je laisse ça à votre réflexion. Et après, depuis l'année passée, il y a eu un gouvernement qui a fini par se constituer, et nous avons un parti nationaliste flamand qui a moins de 10 ans, qui s'appelle la NVA, la New Vlaams Alliance, qui fait un carton, qui a récolté plus de 35% des voix. C'est un système proportionnel, donc c'est énorme. Et qui, dont l'article premier est l'indépendance de la Flandre, et qui est maintenant au pouvoir partout, en ce compris au gouvernement fédéral, dans une coalition de trois partis flamands et d'un parti francophone, ce qui est une première parce que tous les gouvernements étaient composés de manière paritaire par des flamands et des francophones. Alors pour faire plaisir aux francophones, on a donné le poste de premier ministre à un francophone, mais pour le reste, vous avez ce parti nationaliste flamand qui est au pouvoir. Et ce qui est singulier, c'est qu'il prend possession des rouages du pays. Mais que si vous faites pendant ce temps-là des sondages, ce qu'on fait tout le temps, sur la vraie velléité d'indépendance et de séparation des Flamands, vous avez environ 5%, parfois 8%. C'est déjà allé une fois à 10. Ça n'a jamais dépassé cela. Ce qui veut donc dire qu'il y a des tas de gens qui votent pour des partis à velléité indépendante, mais sans vouloir vraiment, sans attachement particulier à cet objectif ultime. Vous me direz qu'il y a toujours des gens qui votent pour des partis socialistes qui ont la lutte des classes dans leur programme. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a donc des gens qui votent pour ce parti en se disant « j'ai pas envie qu'ils aillent jusqu'au bout de leur velléité et de leur programme, mais j'ai quand même envie qu'il y ait un coup de pied dans la fourmilière et que tout de même ces Wallons se mettent à travailler, enfin que sais-je, toute la présentation classique des clichés entre les deux communautés. » Ça veut dire que ça ne va pas si mal, mais que c'est un dialogue intéressant. J'en parlerai peut-être des Flamands tout à l'heure, parce que comme les Catalans et comme d'autres, ils me paraissent constituer un nationalisme de nouveaux riches. Ça a déjà été évoqué tel quel. On fait souvent l'alliance entre les montées nationalistes et la précarité socio-économique. C'est sans doute le syndrome de la République de Weimar et l'idée qu'il ne faut pas trop humilier politiquement, mais aussi économiquement, une population quelle qu'elle soit, parce qu'on le paye toujours plus tard. Je crois que c'est plus complexe que ça et que c'est... Il y a certaines régions qui deviennent d'autant plus riches qu'elles deviennent d'autant plus autonomes et qu'elles développent un nationalisme de nouveaux riches consistant à ne plus accepter d'être une vache à lait pour le reste du pays, surtout si ce reste du pays a l'air de les mépriser culturellement. Et je crois que c'est ça, l'adjuvant, c'est la composante entre ces deux éléments qui donne un sentiment identitaire extrêmement fort et poignant, et qui, par exemple en Catalogne, par exemple en Flandre, et par exemple dans une série d'autres régions, emmène des mouvements autonomistes extrêmement forts. Alors, pourquoi ai-je eu envie de m'intéresser à la nation par le biais décrit par Philippe ? Donc moi, j'ai fait une thèse sur la souveraineté. Et depuis lors, dans mes activités de philosophe politique, quand j'ai le temps de m'y consacrer, j'adore essayer de trouver les sujets qui tendent à prouver que derrière toute philosophie politique, vous avez une anthropologie. Derrière toute philosophie politique, de gauche, de droite, peu importe d'où qu'elle vienne, vous avez une vision de l'homme déterminée. De la cité de Platon jusqu'à Marx, vous avez même la croyance qui a longtemps habité l'être humain, je pense, qu'il peut y avoir une combinaison magique entre ce que l'être humain est et la manière dont il doit être géré et dirigé. Depuis la cité idéale jusqu'à la dialectique. Et je crois qu'en fait, on est sorti de ça il y a assez peu de temps et que c'est une forme de deuil. Et que c'est un deuil pas facile. Peut-être que la longévité de la démocratie libérale tient en partie du fait que c'est une idéologie un peu profane par rapport à ce que je viens d'expliquer et qui, elle, se propose d'avoir quelque chose de plus flexible, de dire oublions les grands soirs, peut-être qu'il n'y aura jamais de correspondance absolue entre ce que l'être humain est et la manière dont il peut se diriger et se gérer. Et qu'il faut donc introduire la flexibilité dans le système. Donc mettre le paquet sur les droits individuels, la réalisation individuelle, et considérer que le reste, ce sont des moyens. Au fond, depuis la Révolution française, on en est avec ces deux pôles héritiers de la Révolution, l'idéalisme qui a fini par donner la gauche sous toutes ses formes, en ce compris la gauche démocratique, et le libéralisme qui est parti dans l'autre sens et qui, lui, est axé sur les libertés comme fin et l'État comme moyen. Et je me suis donc intéressé à la nation. Genre, quel est le besoin auquel répond la nation ? Et ce qui m'a poussé à m'interroger là-dessus, c'est une réflexion d'un Suisse, figurez-vous, à savoir Jean Piaget. Je disais du Piaget parce qu'il a écrit un livre sur l'éducation internationale, l'éducation morale des enfants, un de ses grands sujets, vous le savez. Il s'est beaucoup interrogé sur la manière dont les petits Suisses, en l'occurrence, pouvaient recevoir une éducation directement de nature internationale, directement coopérative. Et donc, il essayait, il testait, il réfléchissait à des modes d'éducation qui n'étaient pas de l'ex-cathédra, mais qui forçaient les enfants à collaborer. Et dans un de ses livres, je suis tombé sur cette assertion de sa part. Le nationalisme tient à une attitude d'esprit plus qu'à toutes les raisons historiques, ethnographiques ou linguistiques réunies. Assertion qui m'a donc un peu bousculé et qui m'a poussé à essayer de m'interroger sur le fond de ce qui constitue le sentiment national. Et ce qui peut constituer le sentiment de tout être humain est à la base des inventions modernes. Ça a été rappelé hier, la nation, c'est une invention de la modernité. Et si on va un peu juste avant le début de la modernité, même si ça dépend selon les écoles, hein, on fait remonter la modernité soit à Descartes, soit aux révolutions, enfin en tout cas à cette période de bouillonnement d'idées. Et vous avez eu dans cette période de bouillonnement d'idées les philosophies du contrat social,
et toutes les philosophies du contrat social partent d'une vision particulière de l'être humain. Pour Hobbes, par exemple, et son Léviathan, ce qui pousse à entrer dans le contrat social, c'est un sentiment de peur et d'envie de conservation. C'est parce que l'homme est un loup pour l'homme qu'il faut s'assembler, créer un état qu'on appelle Léviathan, donner à cet état le pouvoir de casser la figure à son voisin, et donc lui donner le monopole de la violence légitime. Pour Locke, c'est autre chose. C'est plutôt parce que l'homme voudrait rester un propriétaire et assurer ses biens qu'il entre en société. Et pour Rousseau, comme vous le savez, c'est beaucoup plus radical que ça. Il faut penser à un système où on n'est pas aliéné à aucun moment et au contraire, le peuple, via la volonté générale, reste souverain en permanence. Et c'est sans doute parce que, même si on peut parler de l'exemple suisse, les formes de démocratie directe permanente, où chaque jour le peuple se gouverne lui-même, paraissent se heurter à l'inapplicabilité de sa réalité, qu'on est dans une forme de vision un peu étrange de la démocratie comme deuil. Et un des fonds de ce que je pense, et je terminerai par là tout à l'heure, c'est qu'on est dans une tension. C'est pas tout à fait une opposition, c'est une tension entre démocratie d'un côté et nation de l'autre. La démocratie, c'est le temps présent par le temps présent, c'est donc du bricolage, c'est pas nécessairement très sexy, ce sont des compromis, c'est des discussions, c'est difficile. La nation, elle échappe à ce problème, puisqu'elle est toujours soit dans la revitalisation du passé, soit dans la promesse de l'avenir. Et c'est en ça, et c'est le fond en effet de ma petite thèse, qui peut, je me rends compte, avoir l'air radical, mais que je ne pensais pas comme ça, qui est que tout nationalisme est une forme d'amour illusionnel et d'une promesse qui ne peut pas être accomplie et qui ne subsiste, qui n'existe que de cette manière. Et on le voit dans toute une série de dossiers. En fait, le problème de base est simple. Nous surinvestissons sur la nation comme nous surinvestissons sur tous les autres traits distinctifs qui nous composent et que nous croyons à tort homogènes ou éternels. Qu'il puisse s'agir d'une couleur de peau, qu'il puisse s'agir d'une religion, qu'il puisse s'agir d'une langue. En fait, tous les éléments que je viens de citer, il n'y a aucun d'entre eux n'est stable. Inestable que pour nous, qui avons des durées de vie extrêmement brèves, malheureusement, par rapport à l'évolution. Mais nous arrivons à un moment déterminé du film. La langue française que je suis en train de vous parler, qui est grosso modo la même que les Suisses, les Français, le monde francophone, n'existait pas comme telle, il y a 500-600 ans, était très différente et va encore évoluer dans 500-600 ans de la même manière. La peau blanche, qui est la mienne, on le sait grâce aux recherches génétiques, n'existe que depuis environ 8000 ans, c'est-à-dire vraiment avant-hier en termes géologiques. C'est tout de même amusant à rappeler à une époque où certains essayent de refaire des races. C'est une adaptation climatique de populations qui ont migré. Et rappelons-le, tu as eu l'humilité de rappeler mon travail principal, qui est de m'occuper d'un centre fédéral belge qui veille aux droits des migrants et des étrangers de manière générale, même les Suisses installés chez nous éventuellement, de lutter contre la traite et le trafic des êtres humains et de faire des statistiques migratoires. Rappelons que tous les êtres humains, sans exception, viennent d'Afrique de l'Est, qui sont partis de là, on pense, environ une période entre 50 et 100 000 ans, qu'ils ont essaimé sur toute la planète. Et dans les montées identitaires et parfois xénophobes auxquelles on assiste dans toute l'Europe, et qui ont été intensifiées à cause de la crise migratoire, on pourrait, on en parlera dans les questions si vous le souhaitez, voir aussi un espèce d'étrange complexe du sédentaire sur le migrant. Le migrant qui arrive, qui impose sa présence, qu'elle soit légale ou non, il est un peu un rappel, un reproche vivant de toute une série de choses, mais notamment du fait que, puisqu'il y a peu de migrations qui se font sur des bases complètement volontaires, tout le monde migre pour survivre ou pour à tout le moins mieux vivre, le migrant, il rappelle tout de même à celui qui n'a pas bougé de ses frontières que ce n'est que le destin, ce n'est que le hasard, ce n'est que de l'arbitraire qui lui fait bénéficier de tout ce qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas choisi, plus que lui, d'être suisse, d'être belge, d'être gabonais, d'être sénégalais. Et c'est un rappel extrêmement désagréable, je crois, parce qu'il invite à forcément reconsidérer beaucoup de choses en termes d'égalité, de ressources sur la planète, que l'injustice migratoire envoie à l'injustice du monde. Et au fond, pour tous les autres traits qui nous composent, c'est pareil. Nous surinvestissons dans tous les éléments qui nous paraissent contenir une part de forte durabilité, voire d'éternité, comme s'ils étaient homogènes, alors que rien de tout cela n'est. Notre peau blanche est le produit de mélange, nos langues sont les produits de mélange, et même nos mythes nationaux, alors ça, ça a été déjà assez démontré hier, et en fait je fais tout à fait bien la définition de la nation que Anne-Marie Thiès a donnée, c'est-à-dire une série de constructions assumées, alimentées de mythes et qui ont un fort pouvoir mobilisateur. Tous les mythes nationaux sont aussi des constructions complètes qui visent à donner du sens et un sentiment d'éternité là où, a priori, il n'y en a pas. Même, pour prendre un exemple sur lequel je vais m'apesantir 5 minutes, qui est notre grand voisin commun français, qui est un exemple fascinant à observer, d'abord parce que, voilà, pour les Belges francophones comme pour les Suisses francophones, c'est une composante, c'est une influence culturelle majeur, pas seulement sur la langue, mais sur beaucoup d'autres choses, que c'est une nation qui a construit quelque chose d'universel vraiment intéressant, mais qui est pris dans des discours et une diatribe identitaire, surtout depuis quelque temps, qui est complètement sidérante. Car même cette France qu'on peut aimer et louer par ailleurs, et qui possède des dirigeants qui vantent son identité et son identité chrétienne comme s'il était de tout temps, on a l'air d'oublier qu'ils portent le nom d'un envahisseur, les Francs, et que leur religion est également une importation moyenne-orientale. Simplement, c'est l'usure du temps et le fait que tout ça est arrivé il y a très longtemps qui rend tout cela comme une partie de notre bagage qui est tout à fait acceptable et non pas comme un élément qui est proprement contingent et qui peut changer demain comme il a changé hier. Bref, nous échappons à la finitude humaine comme nous le pouvons. Ce n'est pas pour rien si Fichte, dans son 8e discours à la nation, dont on a parlé tout à l'heure, a l'air, en effet, dans des termes très très précis, j'ai la citation ici, je vous la ressortirai, d'assimiler ce qu'il appelle de ses voeux comme une nation en devenir, dans des termes de religion. Parce que dans les deux cas, il s'agit d'échapper à la finitude humaine. Et tout ça peut sembler paradoxal parce que la nation avait l'air complètement passée de mode dans les années 80. Je m'en souviens parce que j'étais enfant, adolescent dans ces temps-là, et moi, l'éducation que j'avais reçue à l'école et l'atmosphère générale, la construction européenne, nous Belges, on est tellement post-nationaux qu'on est très européens, allait dans le sens d'une construction européenne irréversible, dans le fait que toutes les nations étaient appelées à se dissoudre tôt ou tard, et que la chute du mur, tout le monde connaît ça, confortait les thèses de Fukuyama sur la fin de l'histoire, la victoire de la démocratie libérale, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Et a succédé à ça directement une décennie une décennie de tribalisation, pour reprendre les termes du géopolitologue François Tual, qui a fait un article extrêmement connu là-dessus en 1995, il explique que non, au contraire, nous sommes en pleine retribalisation du monde et que ça ne fait que commencer. C'est vraiment un essai qui s'appelle les conflits identitaires, que je vous conseille parce qu'il semble complètement visionnaire. Il parle même de conflits qui vont advenir, comme il explique que, et en Géorgie et en Ukraine, dans un certain nombre d'endroits, ça va nécessairement un jour ou l'autre, ça ne peut pas rester comme ça, et il se rend compte qu'on est au beau milieu d'une décennie identitaire terrible. Vous avez l'éclatement de la Yougoslavie, vous avez le génocide au Rwanda, vous avez un certain nombre d'autres conflits qui émergent et qui invitent à reconsidérer que la guerre froide, un peu comme les Trente Glorieuses, vous allez voir ce que je veux dire, n'était pas tellement à voir comme une période normale, mais comme une parenthèse de l'histoire humaine qui stabilisait les choses et qu'on est reparti dans ce qui était avant et qu'il n'y a aucune raison que ça se calme. Et donc, comme beaucoup de gens, surpris, nous assistons à une retribalisation du monde qui prend des formes parfois inattendues, qui prend un paroxysme particulier depuis évidemment le 11 septembre, parce que ça a l'air de donner corps à la théorie de la guerre des civilisations de Huntington. Une anecdote là-dessus. Moi, en septembre 2001, juste avant le 11 septembre, j'étais à Durban, en Afrique du Sud, où se terminait la grande conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme. C'était mon premier job et je travaillais pour un ministre belge, et les Belges avaient à ce moment-là la présidence de l'Union européenne, et donc nous négocions pour l'Union européenne la déclaration d'Urban, qui est un grand texte onusien, donc qui n'engage à rien et qui n'a pas réellement d'utilité, mais dans lequel il était important que tout le monde fasse semblant d'être d'accord. Et je m'en souviens parce que je m'en souviens pas seulement parce que c'était juste avant le 11 septembre, mais c'est la conjonction d'événements était assez fascinante. Tous les Européens venaient à cette conférence avec une vision universelle de l'antiracisme, avec dans leur valise des exemples type de lutte contre la discrimination à l'embauche, d'autocollants « touche pas à mon pote » des années 80, un petit antiracisme facile de papa, si vous voulez, avec plein de bonnes intentions. Voilà, nous on fait des choses, vous en faites pas. Et les pays du Sud, eux, s'amenaient avec des choses mais complètement différentes. Ils s'amenaient avec des revendications de reconnaissance et de réparation pour l'esclavage, pour la colonisation, des tas de dossiers qui, pour les jeunes Européens dans mon genre, étaient soit réglés, soit en tout cas pas présents au point, à ce point-là. Et alors ça, plus le 11 septembre juste après, qui envoie valdinguer de toute façon tout ça pour un bon moment, montre que même sur des sujets pareils, vous ne pouvez pas avoir d'unité parce que les identités sont tellement fortes, les identités constituent un besoin de reconnaissance si fort pour les gens qui de par le monde n'ont peut-être ont évolué chacun de leur côté, qu'il n'y a pas d'unité réellement possible, même s'il y a une déclaration d'Urban, mais qui était à peu près creuse. Et donc, en m'intéressant à la question de la nation, je me suis intéressé à Ernest Gellner, un historien allemand qui a écrit un grand classique sur le sujet, qui s'appelle « Nation et nationalisme ». La thèse de Gellner est intéressante. Elle reprend l'idée, comme ça nous a été exposé hier par Anne-Marie Thiès, que la nation est une production moderne, mais que c'est une production qui est contemporaine de l'industrialisation, et que la modernité, c'est d'abord ça. C'est l'industrialisation, c'est la production de masse, et que la nation n'est qu'un outil qui est né pour cette fin. Il invite à inverser un peu le régime moyen-fin que nous avons habituellement. Il invite à se dire, mais au fond, non, c'est pas que les nations ne sont pas des forces profondes, chtoniennes, qui attendraient d'être réveillées. Non, non, ce sont des constructions complètement contingentes, mais qui répondent à un besoin qui est que, si vous voulez qu'on s'industrialise, les amis, il va bien falloir que tout le monde parle un peu plus la même langue, qu'on sorte des patois, que nous nous organisions sur un modèle commun, et qu'il y ait un mouvement qui aille du multiple vers l'un, et que ça puisse se faire dans un mouvement beaucoup plus jacobin, beaucoup plus centralisateur, beaucoup plus réunificateur. C'est intéressant parce que, au lieu de voir la nation comme une fin, elle nous conduit à le voir comme le moyen d'autre chose, et de se dire, c'est tentant de croire ça, et du coup je le crois, que nous sommes tombés amoureux de l'outil. Nous sommes tombés amoureux de ce moyen qu'est la nation, alors que ce n'est qu'un outil de construction des sociétés modernes telles que nous les concevons. Il est assez intéressant que tous les pays, je pourrais vous parler du mien, mais je vais plutôt vous dire un mot de la France parce que c'est beaucoup plus intéressant, tombe dans cet amour illusionnel qui nous amène tout de même vers des extrémités peu recommandables. Moi, je crois qu'il y a deux France. Et il y a toujours eu deux France depuis la modernité. Vous avez grosso modo une France chrétienne, fille de l'Église, qui va puiser ses racines jusqu'à Clovis. C'est ce qu'on appelle vieille France, c'est la tradition, c'est la manif pour tous, enfin, vous voyez, c'est ce morceau-là. Et vous avez une France, mais tout aussi cohérente et puissante, qui est la France révolutionnaire, qui est la France qui croit qu'il y a toujours une table rase qui est là demain, la France qui a créé la République, la France de l'ambition universaliste, la France qui va vous écrire une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On parlait du fait que le mot nation soit lui-même ou non universel dans cette conception, on en parlait hier, mais pour les déclarations de droits de l'homme et du citoyen, c'est flagrant. On parle d'abord de l'homme, on ne parle même pas du français ou du citoyen français, mais on dit qu'on place la condition d'homme avant celle de citoyen. Et moi, je pense que ces deux France sont en état de tension, voire de combat, depuis à peu près toujours, et que la Ve République a ceci d'intéressant, qu'elle propose une sorte de compromis, une monarchie républicaine, où tout le système politique dépend d'une élection personnalisée, ce qui est quand même un poids fort, avec un président qui, d'ailleurs, comparativement aux autres régimes, a des pouvoirs énormes vis-à-vis de son pays, et que c'est créé avec ça une notion de république extrêmement intéressante, parce que la république c'est autre chose encore que la nation. Je crois qu'on sera d'accord. Et ce n'est pas juste une identité française, c'est aussi l'adjonction de valeurs, en ce compris des valeurs à vocation universelle, comme la Déclaration des droits de l'homme. Et vous assistez comme moi à cette étrange campagne qui commence, où on a vu un ancien président de la République qui veut le redevenir, expliquer sans rire qu'on pourrait tout à fait modifier la Constitution française pour permettre d'interdire le port d'un maillot de bain islamique. Et il n'y a pas si longtemps, on a vu un actuel président de la République, et c'est une erreur du même calibre à mon avis, défendre l'idée de la déchéance de nationalité pour acte terroriste, en ce compris, pour les binationaux, parce qu'il s'est rendu compte que c'était quand même compliqué de créer des apatrides, parce que c'est interdit, et qui a échoué dans cette manœuvre. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que l'échec est le signe que les institutions françaises ne fonctionnent pas trop mal. Qu'il ne soit pas si facile que ça de faire quelque chose d'aussi fou que de créer de différentes catégories de Français, ceux qui pourraient se voir retirer leur nationalité et d'autres pas. Mais dans les deux cas que je viens de citer, vous avez donc quand même un ancien et un actuel président qui, poussé par le climat anxiogène et de peur qui est évidemment profond, n'ont pas de problème à reconnaître qu'il y aurait une identité française qu'on pourrait opposer aux droits fondamentaux, alors que les droits fondamentaux font théoriquement partie de cette identité française, pour dire à quel point nous sommes dans des temps relativement troublés. Gellner explique que la nation a réussi une sorte de duperie, une sorte de tour de passe-passe. Il constate, et il se base sur certains récits allemands, il constate que la nation est devenue quelque chose de concomitant d'identité humaine, qu'on ne peut pas imaginer un homme sans nation. La patrie est d'ailleurs interdite par des traités internationaux. On est supposé en réduire les cas possibles. Il fait référence à un classique de Adelbert von Chamisso, que vous connaissez sans doute, L'étrange histoire de Peter Schlemihl, qui est un classique de la littérature allemande où, pour rappel, on propose un étrange personnage propose à un homme d'échanger son ombre contre un sac dans lequel il peut puiser indéfiniment de l'or. Il accepte évidemment ça va tourner très mal puisque tout le monde s'aperçoit qu'il n'a pas d'ombre et donc il devient une sorte de paria. Pour Gellner, c'est clair, l'allégorie de ce texte, l'ombre c'est la nationalité. On ne peut pas priver quelqu'un de sa nationalité, ça l'accompagne partout. Et nous dit Gellner, là où ceux qui ont imposé la nation ont fait très fort, c'est qu'ils ont fait passer pour un progrès ce qui est une réduction d'identité nécessairement. La réduction du nombre de langues, la réduction des particularismes. Nous arrivons toujours, encore une fois, à un moment du film déterminé, mais nous ne voyons plus toutes les choses qui n'existent plus, comme pour la sélection darwinienne. C'est pas que la girafe a monté son cou pour attraper les feuilles, c'est qu'il n'y a que les girafes à long cou qui ont survécu. Et on ne voit plus les autres girafes, c'est pour ça que tout le monde... La plupart des gens ont d'abord une vision finaliste de l'évolution, alors que c'est plus complexe. C'est la même chose. Il y a énormément d'identités ou de traits identitaires que nous ne voyons plus parce qu'ils n'ont pas survécu, parce qu'ils ne sont plus là, et que même avant l'émergence des mouvements nationaux, tout a toujours fonctionné vers du multiple vers l'un. Et donc, nous dit Gellner, on assiste à une sorte de duperie. Je vais le citer ici. Le nationalisme pratique une duperie fondamentale à l'égard des autres et de lui-même. Le nationalisme consiste essentiellement à imposer globalement à la société une haute culture là où la population dans sa majorité, voire sa totalité, vivait dans ce qu'il appelle des cultures inférieures. Et donc la duperie réside en ceci, c'est qu'on présente comme un progrès identitaire ce qui constitue en fait une réduction d'identité, une unification rendue nécessaire pour l'industrialisation, l'urbanisation, le développement de l'enseignement, etc. À côté de ça, se développe, par exemple, dans l'idéalisme allemand, et je pense à ce fameux 8e discours de la nation de Fichte, l'idée que tout ceci a une finalité, qu'il y a quand même moyen de réconcilier malgré tout l'individu et la société, l'un et le multiple, l'homme tout seul et la totalité à laquelle il peut appartenir. Et c'est avec ça qu'on peut, je crois, affirmer qu'en effet, les nations modernes remplissent quelque part une fonction de substitution religieuse. Là, je vous cite Fichte. La croyance de l'homme noble à la durée éternelle de son œuvre sur cette terre repose donc sur l'espoir de la durée éternelle du peuple dont il est lui-même issu et de l'individualité de ce peuple. Sa foi et son aspiration à créer l'impérissable, sa manière de concevoir sa vie personnelle comme une vie éternelle, tel est le lien qui rattache chacun de nous à sa propre nation d'abord et, par son intermédiaire, à tout le genre humain et lui fait considérer, jusqu'à la fin de ses jours, les besoins de l'une et de l'autre comme se confondant avec les siens. C'est en cela que consiste l'amour, vous voyez, j'invente rien, que l'on éprouve pour son peuple. Il est fait avant tout de respect et de confiance, de la joie et de la fierté qu'il tire de son origine. Alors, que faire aujourd'hui de cette, pour essayer de terminer, parce que je m'aperçois que le temps passe vite et que notre ami Philippe voulait qu'on discute aussi.
Prends ton temps, je t'en prie.
Que faire de cet amour illusionnel sans jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque si nous investissons dans des types d'identité, c'est bien également que nous en avons besoin. Sans doute peut-on se prémunir de ces excès. Ernest Gellner fait référence notamment à Nuremberg. Nuremberg en 1933, avec les marches au flambeau, où là, clairement, dit-il, là, on a la nation qui se célèbre elle-même, qui est dans sa propre auto-célébration et qui ne célèbre rien d'autre que la vision d'homogénéité, de pureté et d'affirmation extrêmement forte qu'elle déploie. Vous me direz qu'aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, a priori, il n'y a plus de ce genre de rassemblement. On a toujours des foules, mais bon, elles sont dans des stades de football à applaudir 11 milliardaires qui courent derrière une balle. C'est peut-être un progrès, c'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas certain, parce qu'une foule, reste une foule. Et il est toujours possible de la retourner, et tout sentiment de foule est a priori je m'en méfie. Et de là, on arrive à ce que j'appelle ce face-à-face tendu entre la démocratie et la nation. Donc la nation est donc ce sentiment identitaire extrêmement fort qui agit un peu comme une boule de neige. Pour prendre les Flamands et les Catalans par exemple, plus ils ont obtenu des moyens d'assurer leur propre enseignement, de promouvoir leur propre culture, plus ils échappent en fait au contrôle des pouvoirs centraux qui pensaient les apaiser comme on peut donner des biscuits à un enfant pour qu'il se calme, mais qui en fait les nourrit, puisque quand vous possédez votre propre culture et votre propre langue, vous, alors en boule de neige, vient l'envie évidemment d'obtenir le maximum de reconnaissance possible, ce qui est permis sous la forme aujourd'hui de l'État-nation. Mais pendant ce temps-là, la démocratie progresse aussi. Si je prends l'exemple de nos Flamands de Belgique, le premier parti flamand et donc du pays est indépendantiste, mais il est démocrate. Il est vrai, c'est un parti nationaliste démocrate. Tout le monde ne sera pas d'accord, il y a des gens qui vous diront que ce sont des gars d'extrême droite déguisés. Il y a un peu de tout chez eux, mais ils ont un leadership très clair qui est nous n'aboutirons à nos fins que par la négociation, que par la voie politique, et jamais rien d'autre. Et là, ils ont une stratégie très claire, ils savent qu'ils ont un électorat fort, mais qu'ils ont une thèse indépendantiste assez faible, et ils jouent donc le jeu des institutions en mettant tous les pions possibles dans les structures fédérales de notre pays. Et donc, vous avez chez nous, mais comme dans des tas d'autres endroits, un face-à-face intéressant entre la nation et la démocratie. Et entre, je crois qu'il s'agit de deux notions qui ne sont pas sur les mêmes bases, même si elles ont émergé dans l'espace moderne en même temps. Et encore une fois, la différence, c'est la temporalité. La démocratie, c'est vraiment le temps présent. C'est l'idée qu'il faut des compromis pour avancer. C'est l'idée que la toute parole doit être entendue, qu'il faut un mécanisme de vote et de contrôle, qu'il faut des institutions, solides, que c'est ça l'essentiel, que c'est ça qui compte, que le pouvoir ne doit pas être exercé toujours par les mêmes, et que la principale force, c'est la possibilité d'alternance. Pas nécessairement que le peuple soit gouverné comme il le voudrait. Non, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui gouvernent. C'est deux choses différentes. Mais la nation, c'est tout à fait autre chose. La nation, c'est une promesse. C'est une promesse d'homogénéité. C'est une promesse un petit peu de pureté tout de même. C'est une affirmation de ce qu'on est en désignant ce qu'on n'est pas, nécessairement. Et c'est quelque chose qui ne coïncide, de mon point de vue, jamais complètement avec le temps présent. et qui, au contraire, utilise toujours les catégories soit du passé, des mythes enfouis, réels ou imaginaires, soit de l'avenir. On se comprend dans ses formes les plus effrayantes. On ne compte plus le nombre de régimes totalitaires dont le chef, en toute étymologie, s'appelle d'une manière ou d'une autre guide. Je vais vous emmener quelque part. Je vous emmène vers une destination, vers un Reich de Milan pour prendre les... un pont avec le point Godwin ou vers ailleurs, mais vers quelque chose qui n'est pas ici et qui nécessite de vous des sacrifices, qui nécessite que je puisse trouver un bouc émissaire, qui puisse poser un discours victimaire. Et c'est là que ça devient effrayant, quand le discours nationaliste se traduit en un « eux » contre un « nous ». Puisqu'en général, l'autre, dans le discours victimaire, soit il n'a pas vraiment le droit d'être là alors que vous, oui, on est chez nous, tout ça, soit il a fait quelque chose qui vous autorise à le frapper, parce qu'il il a frappé le premier d'une manière ou d'une autre. Et donc j'oserais dire que le combat qui est le nôtre aujourd'hui, il n'est pas entre civilisations, il n'est pas entre démocrates, il est entre ce que j'appelle les héraclitéens et les anti-héraclitéens. Héraclite d'Éphèse, on a très peu d'écrit sur lui, on a que ce qu'on appelle des fragments, puisqu'il a été repris par une série d'autres penseurs. Et un de ces fragments est pour moi une formule qui est vraiment, c'est une sorte de maître à penser pour ce qui me concerne. C'est une petite formule très connue qui consiste à dire « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Ce qui induit l'idée que même quand vous croyez que c'est le même fleuve, c'est plus la même eau, parce que tout est flux et contingence. Et pour un philosophe de l'époque antique, qui était beaucoup plus dominé par des pensées fixistes. Il y a un monde sublunaire, supralunaire, les choses sont fixes, elles sont éternelles. Avoir une intuition qu'en fait tout est contingent, que rien ne passe, que nous ne sommes, il n'est pas jusque-là bien sûr, mais que nous ne sommes finalement que des singes parlant sur un caillou perdu dans l'espace qui va très très vite, qu'un jour tout ceci n'aura plus d'importance, puisque dans 5 milliards d'années, tout au plus, le soleil, le système solaire exploseront et s'évanouiront, et que plus personne ne parlera ni de nation suisse, ni de nation belge, ni de quoi que ce soit d'autre. C'est une pensée, en fait, d'une actualité forte. Parce que quand vous faites vôtre cette contingence, quand vous voyez l'identité comme un moyen et pas comme une fin, que vous préférez donc avoir des ailes et pas des racines qui vous empêchent d'avancer, alors je pense que on a des chances alors de faire quelque chose d'intéressant de sa vie. Et de ne pas imposer quoi que ce soit aux autres. Alors que si vous êtes anti-héraclitéen, les anti-héraclitéens, c'est ce que j'appelle les radicaux de tous les bords. Les extrémistes radicaux, est un terme qui peut aussi être assimilé à un champ démocratique. Donc disons extrémistes. Que vous soyez de gauche, de droite, islamiste, religieux, si vous êtes anti-héraclitéen, c'est-à-dire que vous croyez qu'on peut se baigner deux fois dans le même fleuve. Vous croyez qu'on peut transformer la réalité et l'arrêter, tel que décrit dans un livre sacré, dans un petit livre rouge, bleu, vert, peu importe. Et ça, je crois que c'est le principal combat que nous avons devant nous, parce que les anti-héraclitéens ont beaucoup moins de complexes que les héraclitéens. Ils ont un peu plus de littérature, ils adorent les choses simples, ils adorent les rapports de causalité faciles, ils adorent les discours victimaires. Et que donc, peut-être, dans ces années un peu curieuses et peut-être un peu difficiles, il faut que les héraclitéens discutent encore plus, osent s'affirmer et faire un peu corps de leur contingence, en ce compris, lorsqu'il parle de nation. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Est-ce que tu veux un micro ?
Pourquoi, ça fait une heure que vous ne m'entendez pas ? Ou... Ah, mais c'est pour toi. Je pense que vous êtes très poli d'applaudir. Bravo. Allez-y. Parlez fort
là.
Alors, écoutez, vous avez parlé de différentes croyances finalement irrationnelles. Est-ce que vous seriez d'accord ajouter à ces croyances irrationnelles l'idée qu'un individu appartient forcément à une identité, une nation, alors qu'en réalité, on peut très bien être et français, non seulement juridiquement, mais culturellement, on peut très bien être à la fois et français et allemand. Allez voir le dernier film de François Ozon, très intéressant à ce sujet. On peut être à la fois allemand et turc, on peut être suisse-allemand et suisse-roman, etc. Donc il n'y a aucune raison de vouloir enfermer un individu dans une catégorie. Est-ce que ça ferait partie de ce type de croyance ?
L'idée qu'il existe une seule identité dans laquelle tout le monde... qu'on doit choisir, au fond, oui, ça fait partie de ce type de croyance. Parce qu'en fait, nous avons tous plusieurs identités. C'est Amin Malouf, je crois, qui a proposé le système des vases communicants pour comprendre ça. L'idée de dire que nous devons... Lui, évidemment, un peu bien placé pour le savoir, parce qu'il cumule. Mais justement, c'est des profils de ce genre-là. C'est les profils métissés culturellement ou historiquement qui sont intéressants pour comprendre le monde et qui expliquent... On doit tous faire avec plusieurs identités, et c'est normal, et c'est ça qui nous assure de ne pas croire qu'il y en a une qui serait profondément, intrinsèquement meilleure que tous les autres. Et donc, oui, je suis assez d'accord, même si dans les faits, c'est assez compliqué, parce que le fait d'avoir une identité à laquelle on tient, c'est rassurant aussi. La nation, encore une fois, me paraît comme beaucoup d'autres choses, comme un confort contre la finitude humaine, et qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui ait vraiment du sens quand on creuse un peu.
Est-ce que vous pouvez passer le micro ou il faut quelqu'un ?
C'est très rapide. Un petit merci pour la présentation, avec laquelle j'étais d'accord presque intégralement. Peut-être un point de divergence, mais qui nous éloignera un peu, c'est l'idée que le libéralisme n'est pas fondé sur une anthropologie politique. Je pense qu'il y a une anthropologie politique assez forte au fondement du libéralisme, comme au fondement de la démocratie, comme au fondement du républicanisme, et qu'on pourrait en trouver certains éléments. C'est évidemment une autre anthropologie, mais il y en a bien une. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la question du présent dans la démocratie, pour y avoir un peu travaillé. Alors le problème, c'est que quand on dit que la démocratie se fait au présent, on est immédiatement renvoyé soit à François Hartog, soit à des versions un peu dégénérées de sa thèse, c'est-à-dire que la démocratie serait le lieu du présentisme, cette espèce de nasse du présent où on ne peut plus se projeter ni dans le passé ni dans le futur, et qui serait dans ce que Taguieff appelait le bougisme permanent, c'est-à-dire on s'agite mais sans rien faire, etc. Alors je pense que c'est une mauvaise caractérisation de la démocratie, mais j'aimerais peut-être vous entendre un petit peu plus en détail sur ce bon présentisme de la démocratie, d'une certaine manière.
Alors, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'ai dû échapper à cet auteur. François, comment ?
Juste pour...
Ah, il tourne. Artouille. D'accord, j'irai. Est-ce qu'on est dans un régime où le présent est replié sur le présent ? C'est une vraie question, et c'est une difficulté intrinsèque à la démocratie. Pour prendre deux exemples qui traitent du fait que la démocratie a du mal avec d'autres temps que le temps présent, on peut prendre la dette et l'écologie. Au fond, c'est presque un seul sujet. Mais la dette au sens financier. Il y a aussi une dette écologique. Voilà un sujet fascinant, puisque c'est un sujet intergénérationnel. On est en train d'expliquer, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais en Belgique, en Europe du Nord, c'est un peu le cas. On est en train d'expliquer aux générations actuelles qu'elles vont devoir travailler jusqu'à 70 ans, alors que leurs parents ont pu partir parfois à 58, 59. Et donc, il commence à y avoir des vraies discussions intergénérationnelles sur cette génération du baby boom qui a quand même eu tout, en ce compris le plein emploi, et qui a épuisé toutes les ressources fossiles, et qui en plus part à la retraite très tôt. Alors moi, quand j'étais petit, je croyais sincèrement que quand vous cotisiez pour votre retraite, on mettait un montant à vous dans un coffre, vraiment, et que ce montant grandissait et qu'on n'y touchait plus avant la retraite. Alors
En fait, c'est pas ça du tout. On est en flux tendu permanent, en tout cas dans un certain nombre de pays. Et donc l'argent que vous payez est directement utilisé. Donc, c'est comme si tout le système des retraites chez nous était un système à la Madoff et on se demande mais où est passé le premier argent. Donc clairement, il y a un problème de penser l'avenir, parce que si je veux faire une campagne électorale sur ce sujet-là, que je vois que les seniors sont majoritaires, est-ce que je vais avoir beaucoup de succès si j'explique qu'il faut couper dans les retraites pour que les jeunes puissent travailler, enfin je prends un exemple caricatural exprès, ou est-ce que je peux parier sur le fait que les personnes âgées vont être solidaires avec leurs jeunes. Et la dette de manière générale, c'est de l'argent que nous empruntons à l'avenir, enfin aux enfants, en tout cas dans certaines proportions. Il y a des bonnes dettes, hein, bien sûr, comme dirait David Graeber, notamment s'il s'agit des dettes d'investissement. Mais enfin, en gros, le niveau d'endettement est tel qu'il pose, je trouve, un vrai problème démocratique, puisque des gouvernements empruntent et ont emprunté en sachant que ce ne serait jamais eux-mêmes qui auraient à payer la facture. Donc voici quand même une vraie faiblesse de la démocratie. Sur l'environnement, bah, c'est pareil, nous utilisons des ressources. Alors que les enjeux sont bien au-delà de ça. Je sais que Dominique Bourg ou Jacques Attali ou des tas d'autres gens réfléchissent à des choses comme le Parlement des choses, une chambre du long terme, où je crois que c'est plutôt Attali ça, où les idées, où toutes les propositions de loi devraient être approuvées par une nouvelle chambre législative qui représente les intérêts des générations à venir, qui n'existent pas, en disant mais on ne vote pas, on ne légifère pas, on ne gouverne pas de la même manière si on intègre les intérêts des gens qui n'existent pas encore. Et que, anthropologiquement, par nature, nous ne sommes pas capables d'intégrer. Donc, je sais pas. Comme je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que c'est le présentisme, j'irai d'abord lire cet auteur. Je ne peux pas vous répondre complètement, mais que la démocratie soit axée sur le présent par définition et que c'est très difficile pour être à leur décharge, quand vous êtes homme ou femme politique, d'avoir un programme, non pas juste pour les 4 ou 5 années à venir, mais on dit que c'est ça qui différencie les hommes d'État des hommes politiques, c'est qu'ils osent présenter un programme pour le très long terme. Mais est-ce qu'ils auront des électorats qui suivent? Ça veut dire que nous soyons nous aussi tous sensibilisés sur le très long terme et pas juste sur l'addition de nos intérêts individuels.
Oui. Je crois que c'est à moi.
Voilà, c'est ça.
Oui, merci pour votre présentation, à la fois très intéressante et très, très élégante, ce qui ne gâte rien. Je suis un tout petit peu orphelin de Narcisse, parce que je pensais que vous alliez exploiter le filon de Narcisse, le mythe, plutôt que de simplement l'évoquer un tout petit peu, et je pense que vous avez des choses à dire là-dessus. Il y a deux moments où j'avais envie d'y penser en vous écoutant, mais je ne sais pas du tout si c'est dans ce sens-là que vous aviez envie de l'utiliser. Je pensais qu'il allait arriver avec Héraclite, parce que finalement, il met d'accord les Héraclites et les anti-héraclitéens, c'est-à-dire que quelque part, que l'eau soit la même ou soit pas la même, au bout du compte, le reflet est le même. Donc le mythe de Narcisse fonctionne dans les deux cas de figure. L'autre chose, c'est que, encore une fois, je ne sais pas ce que vous vouliez dire de Narcisse, et vous allez peut-être me le dire, ou peut-être que finalement, le mythe n'a pas tellement d'importance par rapport à ce que vous vouliez nous dire, mais je crois, j'imagine assez volontiers ce que vous pourriez dire. Je ne suis pas sûr que, si c'est qui vous motive hein, dans l'analogie. Je ne suis pas sûr que ce soit l'amour de soi-même qui soit en jeu véritablement dans le nationalisme en soi ou l'amour de sa propre image, du moins l'amour de sa propre image fidèle telle que le reflet de l'eau peut nous la donner. Il me semble que si on veut jouer d'une analogie comme celle-là, c'est plutôt Dorian Gray qui fonctionne que Narcisse, c'est-à-dire une image fiction, une image fictive qui se brise d'un seul coup et qui nous ramène à une réalité qui est autre que ce qu'on aime regarder dans le miroir. Mais peut-être que je surinterprète bien au-delà de ce que vous vouliez dire.
Je suis un grand fan du portrait de Dorian Gray. J'aurais pu aussi l'utiliser, mais l'allusion à Narcisse, outre qu'elle me permettait d'utiliser une belle image libre de droit pour le livre, c'est tout simple. C'est que le problème de Narcisse, c'est qu'il ne peut pas, même physiquement, se détacher de la vision de son portrait dans l'eau. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce mirage-là avec la nation. C'est comme si c'était impossible d'imaginer, malgré John Lennon et deux, trois autres, un monde sans nation ou sans que la composante nationale soit si forte, alors que c'est un truc complètement, on l'a assez vu hier soir comme ça notamment, complètement construit. Et donc, pardon, je vous déçois peut-être, mais c'est vraiment juste cet aspect-là des choses. Comment ça se fait que nous soyons tel Narcisse, on ne peut pas se détacher de la nation et c'est pas juste de la... Bien sûr qu'il y a une grande part d'amour illusionnel, mais c'est aussi le fait qu'on n'arrive pas à s'en détacher et que ça a pris tellement de place dans notre identité. Alors qu'on fait de temps en temps un colloque sur le sujet, mais qu'il fait partie de nous, même à notre corps défendant. Peut-être parce qu'on est entre Belges et Suisses qu'on a une position décomplexée vis-à-vis de la nation qui nous permet d'en parler à ce point-là, mais quand vous portez le sujet dans des pays pour lesquels c'est un vrai élément constitutif, c'est encore moins facile. Bon, mais avec quoi vous venez? Il y a encore un niveau d'abstraction dans lequel il faut entrer avec vos interlocuteurs, qui est peut-être plus facile quand on a la chance, moi je crois que c'est une chance, d'appartenir à des nations qui... En fait, toutes les nations sont contingentes et accidentelles, quelque part. Simplement, il y a peut-être des nations qui s'en rendent un peu plus compte que d'autres et qui, du coup, peuvent utiliser leurs ailes. Oui, vous avez raison, il y a la blessure narcissique.
C'était juste pour dire que Narcisse était plus encore que la question de l'image. Le problème,
vous avez raison, il y avait aussi
la blessure
ça,
narcissique. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, peut-être?
Bah, la blessure, une blessure narcissique en psychanalyse, mais je sais qu'on a des meilleurs spécialistes que moi dans la salle, est une blessure qu'on ne peut pas soigner. Et je vais prendre encore une fois, pardon, hein, c'est ce que je connais le mieux, l'exemple des Flamands. Y a une blessure narcissique profonde qui est que leur identité a été niée réellement par la bourgeoisie et la noblesse francophone des débuts de la Belgique. C'est une blessure qui se nourrit de mythes, notamment qui sont à moitié imaginaires, à moitié réels. Il y a un grand mythe qui circule dans l'identité du mouvement flamand, c'est que les officiers durant la guerre 14-18 étaient francophones et que beaucoup de soldats étaient flamands ou parlaient des patois flamands, ce qui n'est pas du tout dénigrant. On parlait aussi des patois wallons et on oublie de le dire, mais la Belgique a aussi unifié du côté sud en imposant le français aux patois wallons autant qu'elle a essayé d'imposer le français aux patois flamands, et que donc beaucoup de soldats flamands sont morts parce qu'ils ne comprenaient pas les ordres en français de leurs officiers. Et donc, ça, ce genre de blessure-là, si on vous a abreuvé dans votre enfance avec des mythes dans ce genre-là, qu'on vous a appris que l'identité flamande, avec donc des choses réelles, a dû conquérir de haute lutte le fait qu'on puisse que l'université de Gand devienne flamande alors qu'elle est située en plein territoire flamand et qu'on y parlait français. Alors, je crois que c'est une blessure telle qu'elle vous et c'est là le problème narcissique, elle ne vous fait pas voir la limite dans l'autre sens quand vous allez trop loin. Ce qui peut arriver à une partie du mouvement flamand, c'est de ne pas se rendre compte tellement cette blessure est forte, à quel point vous allez trop loin dans votre volonté d'unilinguisme, alors que vous avez conquis vos droits légitimes et que la barrière devient difficile à situer. De même, en faisant une analogie, je crois que ça fait dans mon livre en effet, un peu plus risqué avec la blessure narcissique au sens psychanalytique du terme, vous avez du mal à si vous avez une blessure narcissique et que vous réclamez de l'attention, vous réclamez peut-être plus d'attention que ce que l'autre peut vous donner, vous êtes dans un cercle vicieux qui va détruire votre relation, quelle qu'elle soit, votre relation sociale. C'est la non-maîtrise des limites. Voilà le point commun que je vois.
Il y a quelqu'un là-bas. Voilà, lui. Et après toi, Christophe.
Enfin, je vais commencer par une boutade, peut-être. Est-ce qu'on peut se dire héraclitéen, sans voir en héraclite un guide, vu que la notion du guide semble vous terrifier? Enfin bon, je pense que c'est possible, mais bonne précision là-dessus, je ne sais pas laquelle. Et puis, d'autre part, la question de l'annonce qui est faite, je ne sais plus par quel auteur, du retour des tribalismes. Enfin, il me semble que dans votre vision du monde, vous voyez plutôt ça comme une catastrophe, mais je ne sais pas vous, enfin, je surinterprète. Mais dans l'esprit de cet auteur, est-ce que c'est une annonce d'une vision déterministe de la société ou est-ce que c'est une prophétie à la Jonas? Est-ce qu'il y a quand même une volonté dans le discours intellectuel qu'il ait un impact, une forme d'action sur la cours des choses?
C'est un auteur qui s'appelle donc François Tual, qui a écrit des articles et surtout un ouvrage sur les conflits identitaires, qui est géopolitologue français et qui c'est mon directeur de thèse, Jean-Marc Ferry, qui m'a initié à cet auteur-là que je ne connaissais pas du tout. J'étais à l'université et nous étions dans des années, la fin des années 90, où ce discours-là, on était encore dans l'entre-deux, il y avait le génocide au Rwanda, il y avait la guerre en Bosnie qui n'en finissait pas, mais le monde se divisait encore entre ceux qui croient que le plus dur est derrière nous et les catastrophistes à Huntington qui nous promettaient le choc des civilisations. Et ce François Tuel avait l'avantage d'un discours extrêmement carré, géopolitologue. Il prend juste des faits, il prend juste les noyaux identitaires en cours, en disant, mais dans cette région-là, il y a telle identité qui a été niée, qui va forcément, à cause d'un bagage particulier, ressortir. Il analysait, on l'a déjà analysé ici, le problème des Russes, avec une humiliation des années Eltsine, et quelque chose à reprouver. Alors, Poutine qui achète des Jeux Olympiques à Sochi, ça, c'est complètement ça. On est dans une volonté de retrouver une volonté de puissance absolue. Et donc, il est sans parti pris, si vous voulez. Il fait vraiment une analyse des éléments en présence pour dire, d'une manière qui paraît visionnaire quand vous le lisez aujourd'hui, ça ne fait que commencer. On est au début d'une retribalisation du monde. On est loin de quelque chose de stable. Et en fait, on verra rétrospectivement un jour la guerre froide comme un couvercle sur une marmite. De la même manière qu'un jour, on verra les 30 glorieuses, non pas comme la norme, mais comme une joyeuse exception. C'est vrai que moi, ça fait depuis que je suis né qu'on me dit que c'est la crise. Il serait peut-être temps de changer de paradigme pour faire une analogie économique.
On peut avoir le micro ici.
Merci. Merci beaucoup pour vos explications, c'était hyper intéressant. Moi j'avais une question par rapport à la nationalité et puis à la notion de solidarité. Parce que vous avez fait l'analogie avec Narcisse et qu'on n'arrive pas à se détacher du reflet, et que ce reflet est comme la nationalité, mais moi je me dis, est-ce que ça n'a pas aussi, au-delà du fait que c'est un mythe, on est bien d'accord, et ça n'a pas aussi une utilité, sachant que sur un territoire donné, le seul point commun qu'ont toutes les personnes qui y sont, au-delà de l'âge, de la richesse, etc., le seul point commun qu'ils ont tous, c'est la même nationalité. Donc est-ce que ça ne joue pas aussi un rôle de solidarité ?
Oui, et ce que Ernest Gellner nous explique, c'est ce que j'ai tenté de dire, mais je n'ai peut-être pas été assez long là-dessus, c'est que c'est à ça que ça sert les nations. C'est à créer un sentiment de solidarité. Pour créer la solidarité, il faut que les gens perdent des caractéristiques qui les isolent les uns des autres et se dotent de plus de caractéristiques qui les lient les uns les autres. Alors le mieux, c'est la langue. Enfin, la conjonction langue, territoire, gouvernement, c'est la définition de la nation classique, parce que par la langue et donc par l'enseignement passe le reste. Mais l'idée de dire, en effet, les nations ne peuvent se constituer que si on arrive à installer de la solidarité dans les gens. Mais pour créer de la solidarité entre les gens, il faut rien à faire, c'est humain, c'est peut-être bassement humain. Il faut qu'on se reconnaisse un peu plus dans chacun des autres, et qu'on se trouve un petit peu plus de points communs. Et donc pour créer des nations, il faut des unifications de langue et de culture qui passent par des sacrifices que nous ne voyons plus. Mais la plupart de nos ancêtres, sans doute, ne parlaient peut-être pas français du tout, si ça se trouve, ou parlaient certains patois. Ce que nous prenons pour une langue relativement homogène et claire ne l'est pas du tout, et elle produit de métissages nombreux. Et c'est la même chose pour tous les éléments culturels, peut-être même pour les mêmes au sens accent grave M-E, tous les mêmes culturels qui nous composent.
Il y a Hugues et il y a Christophe. Oui, Christophe d'abord.
Merci. Je suis convaincu que vous souhaitez dissoudre l'hydre nationaliste et détribaliser le monde, mais je me demande si vos méthodes sont les bonnes. Vous êtes armé de l'historicisme, et j'ai envie de dire misère de l'historicisme. Vous êtes armé de la psychanalyse, et là on voit bien que vous pouvez parler de narcissisme aussi longtemps que vous voulez, simplement les nations ne sont pas en cure, elles ne sont pas sur le divan, elles n'attendent rien de vous, et vos interprétations les intéresse pas. Et au fond, l'intelligence est presque destinée, en face des poussées qu'on voit, à perdre la partie. Et c'est pas, je suis pas un alarmiste, hein. Moi, je pense qu'il faut se réconcilier avec la nation. Il n'y a jamais eu de démocratie en dehors des nations. Les empires et les entreprises n'ont jamais apporté la démocratie dans le monde. Il n'y a jamais eu de solidarité sociale en dehors des nations. Les empires et les entreprises n'ont jamais amené de solidarité sociale. Donc, à un moment donné, il faut que cette optique hyper-gauchiste, hyper-critique, que vous appelez héraclitéenne, mais je vous rappelle, dans Héraclite, il y a quand même une phrase assez forte, c'est que c'est Polémos qui est le maître de toute chose, la guerre. Et on va, avec l'héraclitéisme, on ne va pas vers la paix, on va vers la guerre. Moi, je préfère Parménide, hein, c'est vraiment plus stable. Le non-être n'est pas, et puis finalement, ben voilà, il nous reste l'être. Et je pense, de ce point de vue-là, que la gauche fait fausse route, c'est-à-dire que cette phobie du nationalisme la laisse, en fait, l'extrême droite s'emparer de thèmes de manière ridicule, d'ailleurs parce qu'ils ne connaissent rien à l'histoire véritable des pays, en tout cas pas de la Suisse, qui ne se réduit pas à la lutte à la culotte, comme on l'a vu. Mais je crois aussi que l'hyper-historicisme est en position de faiblesse. Et je crois qu'on arrive... encore une fois, à la misère de l'historicisme. Je pense à Foucault. Foucault nous dit la maladie mentale, ça n'existe pas devant le 19e siècle. Jacques Pigeot regarde Hippocrate et dit au bout d'Hippocrate, je voyais Pinel. Donc, au fond, Foucault avait simplement, pour dire que la maladie mentale n'existait pas avant le 18e siècle, il avait simplement omis l'Antiquité. D'ailleurs, il en a été conscient puisqu'après, il a pris l'histoire de la sexualité à partir de l'Antiquité. Donc, il y a dans ces réductions historicistes qui tiennent aussi à l'organisation du travail historique, hein, c'est clair, nous dire que la nation n'existe que depuis le début du 19e siècle, ça me semble être une grave perte de profondeur historique. Moi, je distingue des nations 4500 ans avant notre ère, enfin avant nous, avec l'Acadie de Sargon Ier. C'est clair qu'il y a des nations. Et à un moment donné, un empire les réduit à rien, puis elles renaissent. Elles ressortent des empires. Et pourquoi elles ressortent des empires? Parce que la nation est le cadre normal de la solidarité et de la démocratie. C'est le seul endroit où on peut choisir le chef, et c'est le seul endroit où on peut aider les pauvres.
C'est la démocratie, c'est pas choisir le chef.
C'est la définition de Kant. La démocratie, ben, c'est la définition de Kant, c'est choisir le chef.
Je ne sais pas si je suis. C'est pas vraiment une question, donc je ne sais pas si je suis supposé vous répondre. Je dois réfléchir. Je dois réfléchir de façon à tout ce que vous venez de dire. Et je peux peut-être pas vous répondre en deux coups de cuillère à peau. Si ce n'est que vous m'attribuez des ambitions que j'ai pas. Hein. Je ne pense pas avoir dit à moi que je voulais sauver le monde. Moi, j'étudie la philosophie, donc notre job c'est de transformer les réponses en questions. Hein. C'est pas de répondre à des questions. Tout le monde le sait. Et voilà. Donc si je prétendais amener des réponses, je ferais des sciences exactes ou de la théologie. Dieu m'en garde. Et justement, peut-être, j'ai envie, en vous entendant, j'ai envie de faire une analogie toute simple. Au fond, si la nation revenait à un rôle d'outil, elle me conviendrait. J'ai pas besoin de les dissoudre dans voilà. Le problème vient au partir du moment où on se fait maîtriser par notre outil et où l'outil devient quelque chose qui nous définit. Mais si on était demain des êtres humains qui savent qu'ils sont d'abord des êtres humains avant d'appartenir à une nation et à un passeport et une couleur avec une couleur de passeport déterminée, ce serait déjà beaucoup beaucoup moins grave. Et l'analogie avec la religion est du même style. Vous pouvez être athée comme moi aujourd'hui, tout en reconnaissant que nous avons un bagage religieux, des grands monothéismes qui nous composent culturellement. Vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître dans tout ce que les religions font, mais vous pouvez avoir du respect pour ceux qui croient, et surtout ne pas jeter tout du revers de la main en vous disant que malgré toutes les horreurs qui ont été commises au nom des religions, que c'est une étape de développement de l'humanité qui était inévitable. Ça ne veut pas dire que vous devez vous perdre dans l'outil, là encore. Pour quelqu'un qui est religieux, ça va paraître sacrilège, mais si vous considérez la religion comme outil d'autre chose, comme l'ombre d'un père auquel, pour refaire de la psychanalyse, l'ombre duquel il faut grandir, mais dont il faut pouvoir se passer un jour, on a un rapport plus détendu avec les choses. Mais moi, j'entends plutôt d'hommes et de femmes politiques aujourd'hui, par facilité, parce que c'est un discours un peu complexe dans lequel on est, le recours à la nation comme un horizon à venir. Et ça, oui, je trouve ça un peu effrayant. Mais en fait, on peut se rejoindre davantage, à mon avis, que ce que vous ne pensez.
Alors, Hugues, concernant une des remarques que vous venez de faire, on peut rappeler que Spinoza disait que si les hommes se conduisaient, agissaient sous la conduite de la raison, il n'y aurait pas besoin d'État, il n'y aurait pas besoin d'institutions politiques. Or, s'il y a des institutions politiques, c'est donc que les individus ne se conduisent pas selon la raison, mais selon les passions qui les assaillent. Moi, j'aimerais revenir à ce que vous appelez cette tension démocratie-nation, qui pour moi est vraiment pas claire, dans la mesure où je ne connais pas, c'est pas tout à fait la même remarque, mais ça la rejoint peut-être, je ne connais pas effectivement de démocratie qui ne se déroule dans un cadre, entre guillemets, national, par quoi j'entends un cadre qui se dote d'institutions qui assurent une continuité des règles, du jeu, des mécanismes d'attribution des autorités, des pouvoirs et des machins. Donc il n'y a pas de démocratie qui ne se déroule dans un, disons, ce qu'on appelle un ordre constitutionnel qui assure font la continuité des règles, et puis que cet ordre constitutionnel est conçu mythiquement, pas seulement comme étant l'État, mais en tout cas dans la représentation, il est associé à la nation. Donc dans ce cadre-là, il me semble que nation et démocratie sont décidément dans notre constellation très proche. Deuxième observation, sur la notion de moyens. Moi, je suis complètement d'accord avec cette notion de moyens. Personnellement, je pense qu'il faut avoir une vision de la nation comme, au fond, le moyen qu'a adopté l'Europe en train de s'industrialiser. Enfin, l'Europe et le monde développé en train de s'industrialiser, parce qu'effectivement, c'était la machinerie la plus efficace pour produire l'homogénéité nécessaire à des économies à relativement grande échelle. Bon, ça, je crois que là-dessus, moi, j'ai pas de difficulté. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il faut s'interroger sur l'évolution de ce moyen à partir du moment où il commence à dépérir. Or, il dépérit. De facto, il est de moins en moins puissant. Il est de plus en plus concurrencé par des ordres internationaux, par l'OMC, par toute une série de choses sur quoi il n'a pas prise et qui, au contraire, ont pris sur lui. C'est-à-dire l'OMC dit aux États, tu respecteras le libre marché, tu ne feras pas de préférence nationale aux entreprises, et tu adjugeras les contrats publics selon des principes de pur marché ouvert. Bon, ça ne fait pas encore partout, mais il y a de sacrées pressions qui vont dans le sens de façon absolument continue. Et c'est à ce moment-là, me semble-t-il, là, ce que l'auteur auquel vous faites référence sur la tribalisation, il faut s'interroger, au fond, cette tribalisation, c'est de l'ordre du moyen. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas le moyen qui ressurgit au moment où les nations ne peuvent plus rien? Ou, disons, c'est un peu une exagération, enfin, disons, c'est une exagération très claire, mais disons, perdent de leurs moyens. À partir du moment où le moyen nation devient moins efficace, est-ce que, précisément, cette retribalisation qui est observée, je pense qu'à bien des égards, c'est assez exact, ce n'est pas précisément un nouveau moyen qui se met en place à une échelle beaucoup plus petite pour des groupes de se protéger contre certains effets de marché qui leur tombent dessus, qui les assaillent, qui les déstabilisent, etc., etc.
Oui, c'est sans doute se vouloir se réapproprier des leviers ou profiter d'un contexte international beaucoup plus changeant et chaotique pour obtenir ce que d'autres ont. Il y a les leviers économiques, mais il y a aussi l'image de soi. Il y a la manière dont on pense qu'on a perdu ou non le contrôle. Le vote sur le Brexit est assez intéressant à cet égard, d'abord parce que peu de gens l'avaient vu venir, que un peu comme pour la NVA, les indépendantistes flamands, je crois qu'il y a des gens qui peuvent voter sans se dire que les gens pour qui ils votent vont gagner, mais parce qu'ils veulent un signal, mais qui ne s'attendaient pas à essuyer des conséquences, pareilles. Je crois que c'est des causes complexes et interreliées, tout comme est interreliée beaucoup, de manière beaucoup plus complexe que j'ai pu le faire sentir, ce que j'appelle cette tension entre démocratie et nation. J'ai eu la même discussion avec Philippe hier. J'ai pas dit pour autant que les démocraties n'étaient pas le plus souvent dans des nations et qu'il n'y avait pas des intrications et que même il n'y avait pas des valeurs communes. Je dis juste que ces deux notions qui n'ont pas le même agenda ne fonctionnent pas selon les mêmes principes et n'ont pas la même temporalité. Et que parfois, ça se voit parce qu'elles s'opposent frontalement. Quand Nicolas Sarkozy vient vous expliquer qu'on peut modifier la Constitution pour interdire un maillot de bain islamique, ou quand François Hollande essaye de faire advenir la déchéance de la nationalité, alors je trouve qu'il pose un beau problème entre démocratie et nation. Parce qu'ils sont en train d'inventer l'idée qu'il y a un truc qui s'appelle la nation française et qui doit pouvoir aller contre les règles de démocratie française telles qu'elles existaient jusque-là. Et là, vous avez une dissociation intéressante, ce qui prouve que ce n'est pas la même chose, enfin, me semble-t-il, de mon point de vue.
J'aurais de la peine à vous suivre, c'est l'identification pure et simple des règles avec la démocratie, et l'identification pure et simple de l'appel à interdire le burkini dans l'horizon de la nation. Aussi bien, c'est ces deux identifications que vous posez me semblent l'une et l'autre problématiques et
personnellement vraiment trop rapide.
Sans doute trop rapide. Moi, je les tire des arguments qui sont en jeu. Écoutez les velléités de ceux qui veulent interdire le burkini. Ils vont vous parler de nation française. Ils vont parler d'une identité en péril. Ben oui, mais c'est nécessairement une référence à la France, puisque la laïcité seule ne permet pas d'interdire le burkini, au contraire.
C'est au nom d'eux.
C'est une vision dévoyée de la laïcité. D'accord, ben alors jusqu'au bout. Justement, mais alors allons jusqu'au bout. Pour présenter une vision aussi dévoyée de la laïcité, il faut quand même avoir un fond identitaire qui vous donne le culot et une mise en danger de votre identité qui soit assez forte pour avoir une misinterprétation de la loi de 1905 à ce point-là. D'accord. Ok. Oh non, c'est pas mon genre.
On sent bien qu'on a touché le point central du débat là sur la relation nation-démocratie. Hugues, tu peux pas réduire l'histoire de la démocratie, des représentations démocratiques, à la nation qui apparaît, disons, pour faire court, à la fin du XVIIIe siècle. La démocratie, comme Weber le montre dans son livre sur la ville, elle apparaît dans les villes médiévales, qui ne sont pas des nations, ça sous aucune forme qu'on puisse donner. Elle apparaît, si tu remontes un petit peu plus loin, tu es un bon lecteur de Castoriadis, tu peux l'assimiler à l'apparition à Athènes, qui n'est pas une nation. Là aussi, si on assimile l'Athènes antique à une nation, disons, ça donne une extension telle au terme de nation qu'on ne comprend plus rien à ce qui se passe ces deux derniers siècles. Et puis elle apparaît, troisième origine, et là aussi Castoriadis en parle beaucoup, dans le mouvement ouvrier. Le mouvement syndical, les mouvements syndicaux, le mouvement ouvrier, tout ce qui se crée. Alors tu as mille exemples, la Commune de Paris, la Révolution espagnole, la Hongrie en 56, etc. C'est aussi la démocratie et ce n'est pas la nation. Assurément pas. C'est très éloigné des représentations nationales. Donc je pense, moi j'irai un peu plus loin peut-être que l'orateur, c'est-à-dire je pense qu'il faut forcer l'écart entre démocratie et nation, et bien montrer que la démocratie n'est pas réductible à la nation, ni l'inverse, même si en effet on a des cas où des nations fonctionnent sur certains points, la Suisse est un exemple, la France, etc., sur certains points sur un mode démocratique. C'est le même, à mon sens, c'est un peu le même débat, et d'ailleurs ça nous ramène à Gellner, c'est le même débat que le rapport entre démocratie et capitalisme. Et tu as des gens, ça c'est un discours qui est très fort depuis en tout cas la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui dit la démocratie n'est possible que dans le capitalisme. Et on a quelques exemples maintenant, la Chine, le Chili de Pinochet, etc., qui ont montré que ce n'était pas le cas, mais ça a été un exemple très fort dans l'histoire des idées, de dire on ne peut comprendre la démocratie que dans un mode de production capitaliste.
C'était même un espoir, cette combinaison.
Avec un espoir. Et là, on a les mêmes périodisations. C'est les deux derniers siècles. C'était à partir de la fin du 18e pour l'Angleterre, la France, etc., jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on fait une équivalence entre ces trois choses, nation, démocratie, capitalisme, ou est-ce qu'on essaye de faire des séparations? Gellner fait des séparations en disant la nation c'est comme le capitalisme, pour faire court. Anderson dit la même chose, hein, même s'il fait remonter le capitalisme un petit peu plus loin, et puis la démocratie c'est autre chose, ou alors on peut essayer de conjoindre les trois termes, ce qui me semble être un appauvrissement du sens de la démocratie. Disons, c'est pour ça que je vous répondais sur Kant. Pour moi la démocratie c'est pas simplement choisir un chef, c'est même pas ça du tout.
Mais fondamentalement, la question c'est que vous dites
Il faut laisser.
Et il faut le savoir, c'est pas une démocratie.
Ou pas. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas une démocratie que le Front National fait ses voix aussi. Enfin, on ne peut pas faire de l'histoire contrefactuelle non plus. Et je pense qu'on a un biais en Suisse qui fait qu'on a une extrême droite, une droite nationaliste, enfin l'UDC, disons, qui fait de la démocratie, du système démocratique suisse, un élément de l'identité nationale. Donc on est aussi biaisé dans ce débat, je pense, en Suisse, où on a aussi des réactions antidémocratiques, d'ailleurs, de certains représentants de gauche qui sont aussi liés à un contexte politique bien particulier. Et de droite aussi. Non, mais alors la droite qui est antidémocratique, c'est pas nouveau, disons, mais je dirais. Et la gauche non plus. Hein. Il y a aussi une tradition antidémocratique à gauche. Mais je pense que ça, c'est peut-être aussi un élément important. Et puis, quelque chose qui a été évoqué, tu l'as plus ou moins repris là, Antoine, mais par Anne-Marie Thiasse hier, c'est la distinction qui est à réfléchir, en tout cas, entre État et nation. Et que là, on a un peu, je pense, aussi quelque chose de différent. Avoir un ensemble d'institutions qui comprend des procédures légales, administratives, etc., c'est pas forcément une nation. Genre, se mettre d'accord sur un ensemble de règles, statuts, etc., ça peut être, voilà, ça peut être un empire, ça peut être. Donc, je pense qu'il faut quand même faire attention avec certains mots.
Mais, excusez-moi.
Et l'histoire du mot aussi. Enfin,
excusez-moi, est-ce que vous pouvez pas.
Parce que je voulais poser une autre question, je m'excuse. Mais
est-ce qu'on pourrait avoir.
Moi, je voulais juste poser une question revenir sur la question des identités. Puisque dans la présentation a été évoquée l'idée qu'il y aurait un besoin de répondre à la peur de la finitude humaine, et donc l'identité nationale, entre autres, serait une réponse à ce besoin. Alors j'ai deux questions. La première, c'est quelle est la nature de ce besoin? Est-ce que ce serait... Non mais c'est un peu... Voilà, mais est-ce que c'est un besoin physiologique? Est-ce que c'est un besoin social? Enfin, qu'est-ce que c'est ce besoin? J'ai toujours un peu des problèmes avec la notion de besoin, donc est-ce que c'est une pulsion psychanalytique, etc. Ça c'est la première question. Puis l'autre chose, c'est que du coup, effectivement, si l'identité est un besoin d'appartenance, disons, mais que l'identité est sociale, donc elle fonctionne par attribution, par interaction sociale et par attribution par les autres d'une identité, elle fonctionne sur la discrimination, donc discrimination au sens neutre, hein, c'est-à-dire en différenciant les individus en fonction d'un groupe. Est-ce que donc l'enjeu, c'est pas justement l'égalité, dont on n'a pas tellement parlé là, et que c'est bien en rendant égaux les groupes, et pas que les individus, qu'on doit construire une unité, alors, donc, je ne vais pas appeler ça la nation, mais une unité sociale, solidaire, qui dépasse d'une certaine façon, pas les identités, parce que les identités elles vont exister, mais qui dépasse les inégalités entre ces identités.
Oui, ça va être compliqué de répondre par oui ou par non. Néanmoins, ce besoin, il est à la fois physiologique, social, économique. C'est un besoin d'appartenance. Et c'est un besoin d'appartenance
c'est un besoin de, partager des caractéristiques avec un groupe parce qu'on y, on y reçoit de la reconnaissance et de l'existence. Là, je repars avec des trucs en psychologie de base, mais si Axel Honneth, le successeur d'Habermas, école de Francfort et tout son travail sur la reconnaissance, à quel point nous avons besoin de signes de reconnaissance d'autrui et donc d'appartenir à des groupes qui... Et c'est ça, j'essaie de répondre aux deux trucs à la fois, du coup. À la fois, l'égalité juridique est intéressante, mais elle ne suffit pas en termes de reconnaissance, parce que nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin, d'une part, d'être reconnus comme égaux à nos semblables, mais on a envie, tous profondément, de pouvoir identifier, que soit identifiée la plus-value que nous apportons dans un groupe, à identifier ONF sur base des travaux que tu connais certainement de Mead et d'autres. Et donc, un groupe, par exemple en management, on le sait, un groupe fonctionne bien si les différents membres qui en font partie peuvent identifier, sont pas simplement dans une relation de chef et de subordonné, mais peuvent identifier la plus-value et la valeur qu'ils ont dans le tout et dans l'objet. Moi, je crois que les principes de nation qui sont des principes de communauté, mais qui ce sera peut-être autre chose demain, en effet, mais qui incarnent une identité qui dépasse l'individu, qui incarne une direction et qui fait le lien, et donc un lien de reconnaissance avec le passé et l'avenir, reste nécessaire. Peut-être qu'un jour, on pourra complètement s'en passer, mais est-ce que c'est souhaitable? Parce que c'est ça aussi qui lie la solidarité. Voilà, c'est peut-être mériterait d'être développé et que j'y travaille un peu plus, mais je vois ça comme un besoin profond. Et on peut relier quand même l'émergence des nations avec la désécularisation. Les religions ont commencé à partir de nos vies très sérieusement, à partir du moment où les nations y sont arrivées. Moi, c'est un phénomène de vase communicant qui peut être un peu caricatural dit bêtement comme ça, mais qui devrait être encore davantage creusé.
Alors, on prend la dernière question. Hein.
Juste pour revenir sur la question entre démocratie et nation, il a peut-être aussi interpellé nos différents intervenants, je veux dire, dans la salle. Est-ce qu'on peut imaginer justement une démocratie supranationale? Ce qui serait peut-être d'ailleurs la question posée dans les débats européens aujourd'hui, hein, entre la question du fédéralisme ou d'une autre. Est-ce que ça, c'est concevable?
Bah écoutez, c'est ce qu'on a essayé avec l'Union européenne et on est tous en train de voir les limites du système. C'est Jean-Marc Ferry, mon mentor, qu'il faudrait amener là-dessus.
Oui, il me semble qu'il a beaucoup.
Parce que lui ne pense pas qu'il faut un État mondial et ne croit pas à un super État européen, mais croit que les coopérations renforcées entre États ou au fond toute souveraineté que donne un État peut être reprise à tout moment. Les Britanniques nous en offrent l'exemple du moment. Et le seul modèle viable jusqu'à ce que les corps politiques en question est tellement changé de nature que d'autres structures se fassent jour. Voilà, si on a des modèles qui permettent que la France et l'Allemagne ne se tapent plus dessus, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est une des victoires de l'Union européenne, c'est d'empêcher les conflits armés entre ses membres en promouvant, par le commerce mais par d'autres choses, des liens interconnectés qui sont de plus en plus difficiles à dissoudre. Et donc, ces coopérations-là, à mon avis, même dans une Europe plus petite demain, peut-être, ont toujours de l'avenir.
Bon, merci beaucoup. Merci.